Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Île-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'une application Cause Commune pour téléphone mobile. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 26 novembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. La radio dispose d'un salon web, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web pour vous rendre sur le site de la radio, causecommune.fm, vous cliquez sur chat et vous nous rejoignez sur le salon dédié à l'émission pour échanger avec nous et faire des remarques ou poser des questions. Le site de l'April, c'est april.org et vous retrouvez déjà une page consacrée à l'émission avec les références utiles que nous compléterons après l'émission en fonction de nos échanges. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, nous allons passer au programme de cette émission. Nous commencerons dans quelques instants par la chronique In Code We Trust de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune, qui va nous parler de Legal Design et de Legal Tech. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur la stratégie logicielle libre de la MAIF et d'Enercop. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, qui va nous parler du projet de loi économie circulaire et de notamment l'obsolescence programmée. À la réalisation aujourd'hui de l'émission, mon collègue Étienne Connu. Bonjour Étienne.
Salut Fred.
Alors tout de suite, place au premier sujet. Évoquer le code à la main, une règle de droit ou un procès en lien avec les œuvres, les données, les logiciels ou les technologies, c'est la chronique In Code We Trust, dans le code nous croyons, de Noémie Berger, avocate au cabinet Dune. Bonjour Noémie.
Bonjour Fred.
Alors aujourd'hui, tu souhaites nous parler de Legal Design et de Legal Tech.
Effectivement, la chronique de ce jour porte sur la véritable révolution numérique ou technologique qui s'opère actuellement dans le monde du droit. Il faut dire que le droit est plutôt perçu comme une matière très classique et traditionnelle dans son approche et dans ses moyens. Bon, pour ceux qui l'ignorent, cette perception était en fait assez réaliste. Mais jusqu'à peu, parce qu'en effet, petit à petit, le monde juridique et judiciaire se transforme et s'habitue à l'ère numérique. Dans les cabinets d'avocats, les ordinateurs ont définitivement remplacé la machine à écrire, les grands ouvrages théoriques sont à présent numérisés et accessibles sur abonnement en ligne, les codes sont librement consultables sur Légifrance. Chez les notaires, vous pouvez signer votre acte de vente électroniquement. Devant certaines juridictions, les décisions sont même envoyées par voie électronique et vous pouvez contacter les greffes par email. En matière pénale, vous pouvez déposer des pré-plaintes en ligne. Bref, les professionnels du droit ne passent pas à côté des moyens informatiques. Mais dans le même temps, il s'est passé une prise de conscience que le droit est complexe et souvent incompréhensible pour des profanes. Pourtant, nul n'est censé ignorer la loi, aussi compliquée à comprendre soit-elle. Et donc c'est dans ce contexte que sont apparus le legal design et les legal tech, qu'on pourrait traduire comme le design juridique et les technologies juridiques. S'agissant du legal design, comment pourrait-on le définir ? Eh bien, on pourrait dire que c'est une manière de proposer le droit et les raisonnements juridiques de façon illustrée ou visuelle. Historiquement, c'est en 2009 que le legal design voit le jour, autour d'un guide illustré pour présenter en fait les droits des vendeurs ambulants à New York sous forme de dessins et de schémas. Ce guide a été créé par la designer Candy Chang et le Center for Urban Pedagogy de New York et il permettait en fait de comprendre des règles qui étaient assez complexes de manière visuelle, donc adaptées à un public qui ne connaissait pas le droit. Et c'est en 2014 que le legal design est théorisé par Margaret Hagan à l'université de Stanford. L'objectif du legal design, c'est de rendre intelligible le droit par un usage de visuels, de symboles, de schémas, d'infographies. Et à terme, on pourrait même penser que le legal design va s'intégrer dans l'ensemble de nos productions juridiques, que ce soit dans des contrats, avec des repères visuels, dans des notes, avec des schémas, ou même dans des conclusions pour les juges avec des tableaux. Et donc, peu à peu, le legal design prend sa place et les professionnels du droit se forment à ce domaine. En France, depuis 2017, on a l'association Open Law, dont je vous invite à consulter le site internet qui organise des ateliers sur le legal design et d'autres événements. Il est également enseigné à l'école française du barreau qui forme les jeunes avocats depuis 2018. L'école des avocats du Grand Est, eh bien, elle enseigne également ce legal design aux élèves. Et donc, pour faire du legal design, évidemment, il faut un attrait pour le droit, mais également pour le design, parce que au cœur du legal design, il y a l'image, l'importance de l'image. Au-delà du visuel, le monde du droit est aussi directement impacté par les technologies. Et c'est là où j'en viens sur les legal tech, puisque la legal tech, en français on pourrait le dire comme technologie juridique, ou plutôt une technologie au service du droit, eh bien elle vient de l'anglais legal technology, donc l'usage de la technologie et de logiciels pour offrir des services juridiques. On peut faire le parallèle en fait avec le milieu de la finance et la fintech, ou encore dans le domaine médical, la medtech. Le terme legal tech, il provient des États-Unis, c'est depuis le début des années 2000 qu'il est utilisé. Et en fait, il désigne une automatisation d'un service juridique, que ce soit au niveau de son support du document produit, ou du processus, ou de la relation avec les professionnels du droit. En réalité, c'est une nouvelle façon de dispenser des services juridiques dans un univers qui est resté quand même assez figé pendant des décennies. Évidemment, les legal tech attire les jeunes générations puisque c'est une forme d'exercice qui est innovante. Elle vise un public très large. Initialement, ces legal tech, elles étaient destinées à des très petites entreprises ou des entreprises de taille moyenne, voire des particuliers qui sont les justiciables, puisqu'elles leur permettaient, en fait, avec des revenus très raisonnables, d'accéder à des services juridiques. Mais aujourd'hui, ce public, il s'est élargi. Les grandes entreprises développent leur propre legal tech. On a en France quasiment près de 200 legal tech qui ont été créés. Donc elles s'adressent maintenant aussi directement aux acteurs traditionnels du droit. Et donc on a un certain nombre de sociétés qui se spécialisent dans ces nouveaux services. Depuis environ 5 ans en France, l'écosystème de la legal tech s'est développé dans différents domaines, mais pas uniquement juridiques d'ailleurs, puisqu'on a des services qui proposent de la gestion d'affaires, de la facturation, de la comptabilité. Le legal tech permet aussi le stockage et la génération de documents. Donc on se retrouve avec des plateformes qui peuvent parfois mettre en relation des clients avec des avocats ou qui peuvent fournir des outils à des particuliers ou des entreprises, leur permettant par exemple de produire eux-mêmes du contenu juridique. Donc l'accès est souvent simplifié, on s'inscrit sur la plateforme, on choisit notre prestation, on paye et on exécute la prestation. Donc c'est relativement simple. Et ça m'amène à un sujet aussi qui est en ce moment très en vogue dans le milieu juridique, c'est la question du potentiel de la blockchain. La blockchain, c'est cette technologie de stockage et de transmission d'informations qui est transparente et sécurisée et qui fonctionne sans organe central de contrôle. Elle peut être publique ou privée et elle permet en fait d'échanger des données qui sont sauvegardées dans des blocs liés les uns aux autres, d'où le terme de la blockchain. Et le monde juridique aujourd'hui est particulièrement intéressé par ce service, puisque d'une part, il offre un caractère probant très fort, puisqu'il permet de stocker un document juridique pour sécuriser des engagements. Alors un document juridique tel qu'un contrat, par exemple. Donc on sécurise les engagements des parties. En cas de litige, chacune des parties y a accès facilement et elle peut démontrer quelles étaient les obligations que l'autre partie devait respecter. Et le deuxième aspect qui intéresse le monde juridique, c'est la possibilité de créer des smart contracts, donc des contrats intelligents, pour exécuter automatiquement des engagements. Et donc ces contrats sont créés directement depuis la blockchain, qui est encore une nouvelle technologie qui vient en fait révolutionner le monde du droit. Alors on peut se poser la question, quel est le rôle des professionnels du droit dans ces innovations ? Eh bien, il est quand même important, puisque effectivement on produit du contenu, mais évidemment il peut y avoir un risque sur le contenu qui est produit. Donc d'où le fait qu'il puisse y avoir du contentieux sur ces documents qui sont faits par le biais de ces plateformes. Et c'est pour ça que l'avocat aujourd'hui a sa place en fait dans ces nouvelles technologies, puisqu'il est là quand même pour vérifier, avoir un rôle de support pour vérifier que la documentation est bien correcte. Donc c'est pour ça que les avocats se forment à la legal tech. Et donc on a notamment l'École française du barreau qui forme les avocats parisiens, qui a créé un lab, un espace de formation pour préparer aux enjeux en fait de cette transformation de notre activité, notre profession. L'université Paris 2 propose également un diplôme universitaire de transformation digitale du droit et legal tech. Il y a un incubateur physique qui a été lancé par le barreau de Paris pour accompagner les innovations qui sont portées par les avocats. Et c'est vrai qu'au-delà en fait de ces services, on a en réalité de nouveaux modes de compréhension du droit. Et c'est vrai que dans l'essor de ces nouvelles technologies, on voit apparaître aussi par exemple les domaines de gamification, c'est-à-dire en fait on voit le secteur du jeu qui vient se confronter au secteur juridique. En septembre dernier a eu lieu la première édition de la Legal Game Week organisée par l'association Open Law et l'École des avocats du Grand Est. Donc l'objectif en fait c'est de créer des outils juridiques ludiques pour comprendre des des problématiques juridiques qui peuvent être complexes, telles que par le biais de serious game, de quiz, d'escape game. Et donc, c'est vrai que ce secteur est en train, petit à petit, de subir une révolution. Autre révolution qu'on connaît un peu, c'est la justice prédictive. C'est une notion qui est récente. Alors, qu'est-ce que la justice prédictive? En fait, la justice prédictive, c'est de s'appuyer sur des algorithmes pour analyser des décisions de justice qui sont rendues par les tribunaux et donc permettre, en fait, de connaître des conséquences chiffrées de ces jurisprudences ou des arguments pertinents qui sont retenus par les juges. Et donc, on voit vraiment qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles s'intègrent dans notre manière d'exercer. Et ce qui est intéressant aussi, et je fais le lien avec le règlement général sur la protection des données, c'est que finalement, l'encadrement juridique, il est quand même présent et on met des garde-fous, puisque l'article 22 du RGPD prévoit quand même qu'il doit y avoir une intervention humaine à toute décision automatisée. Et donc, toute personne a le droit d'obtenir une intervention humaine en cas de traitement de données à caractère personnel. Et donc là aussi, on voit quand même que toutes ces nouvelles technologies, derrière elles, il y a des hommes et qu'on fait attention à ce qu'il y ait toujours un homme derrière. Donc si ces sujets vous intéressent et si vous souhaitez en savoir plus, se tient actuellement le Village des Legal Tech, les 26 et 27 novembre 2019 à Paris, à la Cité des Sciences. C'est en fait un salon qui organise des rencontres, de l'information, des espaces d'exposition et de conférences pour justement faire découvrir ces nouvelles technologies qui se confrontent au domaine du droit et faire en sorte que, ensemble, elles puissent aboutir à une meilleure compréhension de nos domaines et de nos règles. Voilà, j'en aurais terminé sur cette présentation.
Alors, merci Noémie. Alors, il y a beaucoup de références qui ont été citées. Évidemment, on va les mettre, même si la plupart sont déjà présentes, sur le site de l'April, donc april.org, et sur le site causecommune.fm. Et donc, nous encourageons évidemment toutes les personnes, en tout cas celles qui habitent en région parisienne, à aller à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour se renseigner plus en avant. Je précise que pour la prochaine chronique, nous serons avec Noémie, ce sera en public le 10 décembre 2019, donc en direct du salon POS qui a lieu à Paris. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc la prochaine chronique sera en public. Donc n'hésitez pas à venir pour voir Noémie intervenir en chronique et éventuellement lui poser des questions si vous avez envie. En tout cas, merci Noémie. Je te souhaite une belle fin de journée.
Merci, excellente journée.
Et donc à mardi 12, mardi 10 décembre, excusez-moi. Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Natka par Kanat. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Natka par Kanat, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez la référence sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons passer à notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la stratégie logicielle libre de la MAIF et d'Enercop. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi par téléphone Chris Woodrow qui est conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe MAIF. Bonjour Chris.
Bonjour.
Et en studio avec moi, Julien Negros, administrateur système d'Enercop. Bonjour Julien.
Bonjour.
Donc l'objet de cette émission aujourd'hui, c'est un peu d'expliquer pourquoi deux entreprises privées, qui ont évidemment des structures assez particulières, et ces personnes vont l'expliquer, ont mis en place une stratégie logicielle libre, où elles en sont et quels sont les projets à venir. Alors d'abord, une petite présentation personnelle et de vos structures rapidement pour poser un petit peu le cadre. Donc on va commencer par Julien Negros.
Moi je viens de la licence Colibre dont vous aviez reçu le créateur, Vincent Mabillot, ici même je crois, par téléphone il me semble. Et du coup après j'ai travaillé dans une SS2I plus classique où il y avait une démarche assez volontariste envers les logiciels libres, mais pas non plus, on était très loin de la priorité. Voilà, donc du coup, depuis 2 ans, je travaille chez Enercop parce que j'ai vu une offre comme ça d'administration système avec un système d'informatique qui était basé en majorité sur des logiciels libres, et notamment au niveau du poste de travail, c'est qui m'a attiré le plus parce que ça se fait très peu finalement. Et voilà.
Et une petite présentation d'Enercop. Alors, une phrase.
Oui.
Et on y reviendra en détail après.
Une phrase. Alors Enercop, c'est un réseau de coopératives un peu partout en France qui est un fournisseur d'électricité où tout le monde, particulier et professionnel, peuvent s'abonner pour avoir de l'électricité qui a la particularité d'être en contrat direct avec les producteurs. Beaucoup de structures font de l'énergie. De l'énergie verte, mais pas, enfin, comme nous où c'est du circuit court, très peu. Donc on est sous forme de coopérative.
D'accord. Alors même question pour Chris Woodrow de la MAIF.
Je travaille pour la MAIF, c'est la mutuelle d'assurance des instituteurs de France, qui est une mutuelle d'assurance qui a été créée en 1934 et qui s'adressait majoritairement aux instituteurs à l'origine et qui s'est ouverte depuis. Donc mon parcours, c'est plutôt du côté développement logiciel. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le développement logiciel. Donc j'ai travaillé dans plusieurs sociétés ces dernières années. Et il y a quelques années, la route m'a mené vers la MAIF, à la fois pour la partie ingénierie logicielle et aussi architecture. Et toute mon travail à la MAIF nous a mené vers la mise en œuvre d'une stratégie open source qui est assez singulière. Et donc, j'imagine qu'on va développer ça tout à l'heure.
Tout à fait, là c'était une présentation introductive. Alors j'ai noté d'ailleurs un truc qui est intéressant de convergence entre vous et puis même entre l'émission, c'est Enercop, il y a l'énergie militante, la MAIF, l'assureur militant, et vous intervenez dans Libre à vous, l'émission militante. Donc voilà, il y a la convergence et c'est évidemment pas la seule convergence. Alors premier sujet qu'on va aborder, la MAIF, comme l'a dit Chris Woodrow, c'est 1934, Enercop, c'est 2005, je crois bien.
C'est ça.
Donc deux structures avec une histoire quand même différente, mais deux structures qui ont une démarche logicielle libre. Donc déjà, première question, à quel moment a été fait ce choix de cette mise en place d'une stratégie logicielle libre, et pourquoi et pour quelles raisons? Alors on va commencer par Chris Woodrow de la MAIF.
Alors l'utilisation de logiciels libres à la MAIF remonte à plusieurs dizaines d'années. Hein. On utilise assez massivement Linux sur nos serveurs de production. Évidemment, on avait un historique qui était plus sur des systèmes propriétaires, mais on a assez rapidement bifurquer vers des solutions libres. Donc, on a effectivement, on a encore du reste, hein, quelques logiciels propriétaires qui résident, mais on a une stratégie quand même d'assez long terme sur le sujet. Après, la particularité qu'on a, je pense, c'est le fait d'avoir une posture d'éditeur de solutions open source. Donc, on édite depuis janvier 2018 des solutions open source que nous avons développées et qu'on utilise chez nous en production. Ça répondait à un vrai besoin chez nous et on s'est dit que ça pouvait être cohérent et que c'était une idée qui pouvait être intéressante de partager ces logiciels pour pouvoir les ouvrir et à l'utilisation ou à la contribution vers d'autres sociétés, des particuliers, etc.
D'accord. Julien Negros, concernant donc Enercop, comment s'est mis en place cette stratégie ?
Alors, pour ça, alors moi je suis encore un peu frais dans la coopérative, mais je me suis renseigné auprès de l'un des fondateurs, Julien Noé, qui m'a dit que du coup, alors il faut savoir que Enercop c'est né en partie de Greenpeace, et dans cette entreprise, le DSI était très...
Le DSI, c'est la direction système d'information.
Pardon, oui, c'est. Donc, oui, la personne qui gérait le système d'information était très au fait des logiciels libres et militant aussi du logiciel libre. Et il lui a dit que. Enfin, il lui a indiqué que ses valeurs étaient tout à fait en adéquation avec ce qu'il voulait faire avec Enercop. Et du coup, ça a commencé de manière assez lente, on va dire. Le début, jusqu'en 2013, il n'y avait pas réellement de DSI, en l'occurrence, de système d'information chez Enercop parce que c'était trop petit. Et c'était donc Julien Noé qui s'occupait de ça. Au niveau des postes de travail, ça restait du classique Windows. Mais par contre, ils allaient, quand ils avaient un besoin logiciel, ils allaient chercher dans le catalogue. Dans le catalogue Framasoft pour voir s'il y avait les possibilités d'utiliser et dès que c'était viable, un minimum possible, il y avait quand même la volonté de prioriser le logiciel libre. Et à partir de 2013, il y a une personne qui a été dédiée à la gestion de l'informatique, qui elle aussi une militante du logiciel libre, qui a voulu migrer le parc de postes de travail sous Linux. Alors vous avez parlé de serveurs tout à l'heure. Pareil, les serveurs sont bien sûr sous Linux, mais là il y avait aussi les postes de travail et on a aussi un ERP. Alors c'est un logiciel de gestion et de facturation qui, au début, la volonté c'était de libérer des briques qui auraient été développées en interne pour en faire profiter d'autres acteurs énergétiques. Dans les faits, ça s'est pas encore fait, mais bon, l'idée aussi c'est d'être pas être tributaire d'un éditeur et voilà.
D'accord. Alors, avant d'entrer dans les détails des contributions des uns et des autres et puis des retours d'expérience, sur les raisons de ce choix-là, donc côté Maïf, c'était quoi ? C'était des raisons de coût, d'interopérabilité, de maintenance. Quelles étaient les principales raisons qui ont fait que finalement la direction a accepté d'aller dans une direction, dans un objectif de logiciel libre ?
Ce qui est important, c'est de rappeler ce que c'est qu'une mutuelle d'assurance. Hein. Faut bien se souvenir que nos valeurs fondamentales sont sur l'indépendance, la désintermédiation, la responsabilité. Enfin, on a un mode de fonctionnement qui est quand même assez différent d'une assurance classique. Et de fait, il y a une certaine logique à créer du commun. C'est-à-dire que le logiciel libre, par rapport à l'ADN de la Maïf, c'est quelque chose d'assez naturel. Si on prend une orientation et un regard un peu plus orienté vers l'informatique, et pour la DSI, pour reprendre un gros mot qui a été prononcé tout à l'heure, le fait d'effectivement de pas avoir de dépendance ou de limiter au maximum les dépendances qu'on puisse avoir avec un certain nombre d'éditeurs logiciels paraît être quelque chose d'assez important. D'une part, sur les règles fondamentales que nous apportent les logiciels libres, à savoir pouvoir lire le code, exécuter le programme, modifier son contenu et le redistribuer, la plupart des éditeurs traditionnels ne n'apportent pas ce genre de choses. Et dans certains cas, on s'est retrouvé dans des situations où soit les éditeurs étaient rachetés et les solutions abandonnées, soit on n'avait pas la possibilité facilement de modifier le logiciel alors qu'on avait le besoin. Et donc le fait de se dire qu'une des façons de consommer de l'open source, c'est aussi de contribuer à l'open source, parce qu'on a conscience que l'open source se base sur le fait qu'il y ait des contributeurs, ça a été quelque chose d'assez naturel et d'assez simple à vendre à notre direction informatique et notre direction en général. D'une manière générale, on n'y serait jamais arrivé sans la direction, sans le conseil d'administration. On a été beaucoup soutenus et c'est quelque chose qui est assez important pour nous.
D'accord. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur ce point, sur le soutien de la direction dans les entreprises ou même dans d'autres structures. Côté Enercoop, donc Enercoop a un statut de coopérative, société coopérative d'intérêt collectif. Est-ce que donc le choix du logiciel libre, quelque part, c'est aussi de la cohérence avec ce statut de coopératif ?
Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est comme ça qu'on peut le défendre et c'est comme ça que ça a été à la base le choix. Coopérative, donc coopération, il y a aussi la notion de transparence, de bien commun, c'est des valeurs que même mes camarades qui sont pas forcément très au fait des logiciels libres et de l'informatique en général se retrouvent dès qu'on en parle un petit peu, qu'on leur explique la démarche, ce qu'on essaie de faire. Et au niveau vraiment, enfin plus la direction stratégique d'Enercoop, dans notre première charte réseau, il était question de vraiment explicitement de l'open source. Alors j'ai pas l'extrait là parce que c'est plus la même. Et dans l'actuel, il y a plus la motion d'open source explicite, mais il est question de l'appropriation des enjeux énergétiques en mettant au bien commun les savoirs et savoir-faire intellectuels et industriels. Des choses qu'on retrouve tout à fait dans
le logiciel libre. Donc la mention logiciel libre a disparu, mais elle est intégrée dans cette phrase-là.
Oui, c'est ce que m'a défendu Julien Noé.
D'accord. OK. Donc voilà, donc là, on a compris donc, que c'est côté Maïf, donc c'est à partir de 2018, et on va rentrer un petit peu dans le détail. Et puis Enercoop, un peu plus ancien, mais c'est un travail en cours. Donc on va parler un petit peu donc, de la mise en œuvre de cette stratégie. Comment ça se passe ? Déjà, côté serveur, donc un petit peu comme Chris Woodrow l'a dit, globalement, vous avez, enfin, si j'ai bien compris, vous avez principalement vos serveurs sur un système d'exploitation libre de type GNU Linux.
Oui,
c'est ça ?
Tout à fait. Une Debian. Pour ne pas la citer.
Une Debian, donc ça c'est un côté, on va dire, historique, depuis le départ d'Enercoop, ou ça s'est fait au...
Alors, je crois bien que c'est depuis le départ, ouais. Il y a peut-être eu d'autres types de serveurs au début. Je sais que maintenant, dans notre parc, on n'en a qu'un seul qui n'est pas Debian et qui nous sert quand même à pouvoir maintenir des postes sous GNU Linux, parce que ça nous permet d'avoir des bureaux à distance pour certains logiciels qui n'existent pas sous GNU Linux ou des besoins particuliers.
D'accord. Donc ça, c'est la partie, on va dire, quelque part, souvent la partie la plus simple, la partie serveur. Ouais. Parce que bon, bah, les systèmes libres fonctionnent très bien. Contrairement aux postes de travail, il n'y a pas une interaction directe avec la personne utilisatrice. Donc la formation est peut-être moins compliquée. Enfin, il n'y a pas de formation souvent.
Tout à fait.
Et donc peut-être que sur la partie pause de travail, on va aborder cette question formation. Alors, donc avec Julien Negros, en attendant, on parlait un petit peu de la place du logiciel libre côté serveur, un peu l'historique de côté Enercoop, donc de Debian, GNU Linux, un peu présent partout. Je crois que c'est un peu la même chose côté Maïf. C'est une prédominance des systèmes libres sur la partie serveur.
Oui, oui, tout à fait. Oui. On est plutôt côté CentOS, mais effectivement... On a du Red Hat aussi.
Hein.
Et, donc du coup, oui, il y a une prédominance des logiciels libres côté serveur.
Alors comme je disais, c'est la partie entre guillemets peut-être la plus simple parce que les systèmes libres fonctionnent très bien sur la partie serveur. Il n'y a pas de personne utilisatrice directement, en tout cas, il n'y a pas de formation. Donc la partie plus compliquée, c'est peut-être plutôt poste de client et on va venir avec avec Enercoop avec une expérience là-dessus. Mais continuons avec la Maïf. Tout à l'heure, donc en introduction, vous avez dit qu'en 2018, vous avez, je crois, prononcé le mot d'éditeur de logiciels libres, si je me souviens bien.
Ouais.
Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est que moi, j'ai découvert la Maïf, au-delà de la mutuelle d'assurance, évidemment, mais dans le monde du logiciel libre, je crois que c'était l'an dernier, quand vous avez reçu un prix donc au salon POS à Paris de la meilleure stratégie logiciel libre, et notamment donc la mise en libre d'outils que vous aviez développés en interne. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu pourquoi vous avez fait ça, et quels sont les outils que vous avez développés en interne, en essayant de les rendre compréhensibles pour tout le monde, parce que je crois que c'est des outils assez techniques.
Vers 2016, la direction de la Maïf a décidé de diversifier un petit peu son offre vers d'autres types de services en complément des services assurantiels. Et cette diversification a donné lieu à une expérimentation côté système d'information. On s'est dit, testons des nouvelles façons de faire et une autre façon de créer des logiciels. Et cette nouvelle façon de créer des logiciels, repartons un peu d'une page blanche pour créer ces nouveaux services à partir de ces nouvelles méthodes. Et de fait, on a, à partir de ce moment-là, développé des solutions, notamment qui permettent de gérer des API. Alors, c'est utile que j'explique ce que c'est qu'une API ?
Je pense, oui.
Donc, une API, c'est une façon de qui permet à deux logiciels d'interagir. Et à partir de ce moment-là, on peut, via un réseau informatique, donc permettre à deux ordinateurs qui sont distants d'interagir et de communiquer le plus simplement possible. Le problème, c'est que si on veut, on peut se fournir des services par API. Bon, c'est le cas d'un certain nombre d'API qui existent et qui permettent de récupérer des données, de souscrire à des services, etc. Et donc, on a créé une solution d'API management qui sert à sécuriser ces API, à faire en sorte de créer de la traçabilité, parce que c'est assez important dans notre métier de savoir que c'est telle personne qui a fait l'appel et qui a souscrit à l'API. C'est de pouvoir avoir de la gestion de flux, ce qu'on appelle du throttling, à savoir permettre de faire en sorte qu'on n'ait pas trop d'appels à un instant T pour éviter qu'il y ait soit des utilisations malveillantes, soit des utilisations involontairement malveillantes, parce que ça arrive parfois qu'on fasse une erreur dans la configuration de son client. Et à partir de ce moment-là, on a créé une solution qui permettait de faire ça. La deuxième solution qu'on a créée, c'est une solution qu'on appelle de feature flipping. Le feature flipping, c'est quoi ? C'est ce qui permet à un service web en ligne d'activer à chaud une fonctionnalité. Donc ça, c'est les deux premières briques qu'on a libérées. Et puis, au courant de l'année 2018 et 2019, on a rajouté une solution de mise en œuvre de la GDPR. Cette solution, c'est la solution qu'on a mise en œuvre chez Maïf pour adresser la problématique de la GDPR, d'avoir gestion des consentements, demande d'accès aux données personnelles et demande de suppression des données personnelles, principalement. Cette problématique, on l'avait à l'échelle du groupe Maïf. Hein, je pense que vous imaginez qu'il y a énormément de... Enfin, on a énormément de bases de données, d'applicatifs divers et variés qui contiennent des données personnelles. Suite à ça, on a réouvert d'autres briques et la toute dernière qu'on a ouverte, c'était la solution de classification des mails entrants. À savoir, quand vous envoyez un mail à la Maïf, on peut avoir une quarantaine de personnes finales à qui adresser ce mail. On est parti du principe, il y a un certain nombre d'adresses qui existent, alors ça paraît idiot comme ça de dire... on a besoin de, on peut demander au sociétaire d'écrire à la bonne adresse. Néanmoins, quand vous avez un problème de fuite d'eau, par exemple, en général, vous prenez la première adresse sur laquelle vous tombez quand vous cherchez sur le web. Et de fait, on recevait énormément de mails qui n'étaient pas forcément aux bonnes adresses, et donc il y avait une nécessité de classer ces mails, les envoyer aux bonnes personnes, etc. Et donc, on a créé une solution qui s'appuie sur du machine learning et qui analyse le contenu du mail, essaye de comprendre le contenu du mail et en fonction de ça, envoie le mail au bon destinataire. Bien évidemment, vos mails sont toujours traités par un humain. C'est juste que pour faire en sorte que le mail arrive le plus vite possible à la personne qui va traiter ce mail. On a jugé que c'était intéressant de libérer cette solution parce que, d'une part, on fonçait, il n'existait pas de solution efficace pour faire ça. Et d'autre part, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on offre beaucoup de visibilité sur la façon dont on traite les données et des utilisateurs. Voilà.
Ça offre de la transparence par rapport à vos sociétaires, par exemple ?
Oui. Là, vous pouvez savoir, quand vous envoyez un mail à la Maïf, vous pouvez savoir la solution qui est utilisée pour le lire et pour le traiter, quoi.
D'accord. Avant de revenir votre expérience côté Maïf, je vais préciser aussi que quand vous parliez de GDPR, c'est donc en français c'est le RGPD, hein, c'est le règlement général de la protection des données. Julien Negros, côté Enercop, est-ce que vous aussi vous avez une politique de libération d'outils que vous développez en interne, ou est-ce que peut-être que vous développez pas spécifiquement d'outils en interne, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une politique de équivalente ?
Alors non, faut savoir que, peut-être juste pour contextualiser, là où je travaille, l'administration système, c'est on est un peu séparé du reste du pôle numérique qui s'occupe notamment du développement et de la gestion des données, et on n'a pas forcément les mêmes vues sur ce genre de choses. Et historiquement, je crois qu'il y avait la volonté de le faire, mais ça n'a pas été fait. Donc nous, nos contributions, enfin la contribution d'Enercop au logiciel libre se fait de manière plus pécuniaire. Je pourrais développer plus tard peut-être.
Ouais. On va développer plus tard. Je vais revenir juste sur la maïs, parce que j'ai une petite question par rapport donc à... Et après, on passera un peu au poste de travail aussi pour comparer. Est-ce qu'en libérant ces outils que vous développez en interne, vous avez d'autres objectifs, comme par exemple, vous espérez peut-être des contributions externes, par exemple de la recherche de bugs, vous espérez peut-être que ce soit réutilisé par d'autres structures, ou vous n'avez pas du tout cette recherche d'objectifs?
Ah ben oui, si on libère du code, c'est pour qu'il soit le plus réutilisé possible. Alors, on a pas mal de réutilisation de nos solutions. Hein. Si vous regardez un peu notre repo GitHub, on a eu notamment sur la solution de feature flipping dont je parlais tout à l'heure, on a eu une cinquantaine de contributions à peu près, de personnes extérieures. Ce qui est assez, assez sympathique, c'est que non seulement on a des... On se rend compte, parce que moi, c'est pas le premier logiciel libre auquel je participe. Enfin, avant d'être à la Maïf, j'ai déjà travaillé sur des logiciels libres en tant que contributeur. Et généralement, c'est un monde qui se voit assez peu physiquement. On communique beaucoup à distance. Et puis, moi, ça m'arrive régulièrement quand j'interviens dans une conférence, juste après le talk, d'avoir quelqu'un qui vient en disant « Ah, ouais, je suis machin !» Généralement, il y a un don de... Il y a un pseudo. Donc, c'est fort sympathique. Par exemple, Une des réutilisations qui me paraît assez intéressante, c'est Jens Posten, qui est un des plus gros quotidiens danois, qui est le journal qui avait publié les caricatures il y a quelques années, quoi,
ouais.
Et qui utilise les briques d'activation à chaud Maïf. Voilà. C'est le genre de contribution qu'on découvre au fil du temps. Avec quelqu'un qu'on croise et tout ça, parce que bien évidemment, dans la mesure où on va pas mettre de tracker sur les solutions qu'on libère, c'est difficile de savoir qui nous utilise vraiment. Après, je sais que il y a un certain nombre de sociétés françaises et étrangères qui nous utilisent et qui sont contents et qui participent assez fréquemment, qui contribuent à nos solutions.
D'accord. Là, on a parlé donc d'outils. Alors, les personnes qui vous écoutent ont bien compris que c'est des outils techniques permettant de rendre des services. Un point intéressant qu'on va aborder maintenant, avant de revenir plus globalement au sujet de la contribution, c'est celui du poste de travail. Parce que là, dans l'exemple d'Enercop, alors qu'ils n'ont pas du tout le même thème d'échelle en termes de personnes qui travaillent dans les deux structures, mais une spécificité d'Enercop, c'est que vous avez une bonne partie, je ne sais pas à quel pourcentage, mais Julien Negros va nous le dire, de postes de travail qui sont équipés en distribution GNU Linux et en logiciel libre. Donc est-ce que, Julien, tu peux nous faire un petit point là-dessus, comment ça s'est fait et un retour d'expérience des personnes qui utilisent en fait?
Ça s'est fait à partir du moment où il y a eu une vraie direction des systèmes informatisés et la migration sous GNU Linux. Et donc maintenant, on est... Alors, faut savoir que les coopératives, du coup, elles sont indépendantes, normalement, à peu près. Et du coup, c'est pas la même politique chez toutes les coopératives. Mais nous, au national, comme on dit à Paris, on est 130 personnes à peu près et c'est quasiment 100% des postes de travail qui sont sous GNU Linux. Il y a quelques exceptions pour diverses raisons. Mais oui, c'est du coup une distribution qui est dérivée de Debian, qui est préparée par notre prestataire EasterEggs, que l'April connaît bien, avec qui on travaille très étroitement, et que je salue d'ailleurs. Donc c'est une Debian modifiée, on l'appelle distribution Enercop, parce que donc une distribution c'est finalement des choix logiciels, des configurations particulières, c'est plus que ça, mais c'est en gros c'est ça. Et donc cette distribution elle est installée sur toutes les machines à Paris et sur je dirais une bonne moitié des régions, 50% à peu près des postes en région. C'est plus difficile de gérer ça à distance, mais on arrive à peu près à le faire aussi, grâce aussi à des outils développés par EasterEggs, qui sont libres d'ailleurs, bien sûr. Alors des retours utilisateurs, c'est là que c'est très intéressant. intéressant parce que bah, c'est une rareté. Je connais pas vraiment d'exemple à notre échelle comme ça. Et en plus, on a. Alors, je parle de distribution, mais finalement, le plus important, je pense, c'est l'environnement de bureau. Là, en l'occurrence, nous on utilise Gnome Shell. Donc, ça veut dire que l'environnement de bureau, ce sera la manière dont sera présentée les fenêtres, la manière dont on bascule d'un programme à l'autre, comment on le lance et tout ça. Et auparavant, quand je suis arrivé, on utilisait XFCE. Donc, c'est deux approches assez différentes et on a dû accompagner au changement. C'est moi qui m'en suis occupé et j'en étais ravi. C'était tout exactement ça que je voulais faire depuis longtemps. Et c'était très intéressant. Donc, on a fait ça individuellement parce qu'il fallait mettre à jour les postes de travail. Et aussi, on a fait des formations où on pouvait aussi présenter un petit peu ce que c'était qu'une distribution GNU Linux, les principes du libre. Donc, des personnes qui sont réceptives, mais qui ne sont pas forcément initiées. Et puis, ben, le retour, je pense que beaucoup de gens se l'approprient, des fois même plus que ce que j'aurais cru. Il y a quelques difficultés, des personnes qui ont du mal à s'habituer à avoir quelque chose de différent. On essaie d'adapter dans ce cas-là, par exemple mettre une barre des tâches, alors que dans Gnome Shell il n'y en a pas normalement. On essaye de voir ce qui fonctionne moins. Après, on a essayé aussi d'avoir des ordinateurs assez performants. On a mis à jour le matériel aussi récemment, donc je pense que globalement ils fonctionnent quand même très bien. Après, c'est plus le choix des logiciels en eux-mêmes qui peut être un petit peu déroutant pour quelqu'un qui arrive de systèmes plus classiques et de logiciels plus usités, notamment en bureautique. Là, on en essaie de faire le maximum, c'est pas toujours évident et il y a encore beaucoup de progrès à faire au niveau de la formation. Mais comme tout le monde est un peu dans le même bateau, en tout cas à Paris, ça se passe plutôt bien. Les retours sont assez positif. Là, je me baserai pour ça sur une enquête qu'on a fait interne mettre en place une solution de bureautique collaborative, comme on peut avoir avec un des acteurs principaux.
Voilà, avec un acteur de binon.
Voilà. Je sais pas si on peut le citer pour se donner une idée. Bon, comme un Google Doc, quoi, ou un Office 365. Et donc l'idée, c'était justement, est-ce que vous voulez qu'on passe sur une solution un peu classique? Parce que comme c'est dans le navigateur, on n'est pas obligé de changer fondamentalement notre système de nos PC et nos OS, nos systèmes d'exploitation. Mais voilà, et puis on avait des questions, est-ce que vous êtes un peu à l'aise, est-ce que vous êtes un petit peu sensible aux valeurs du logiciel libre et tout ça, et on a eu moi j'ai été agréablement surpris des retours qui étaient assez positifs. On a eu du très négatif, mais très peu, et du mitigé, et on a eu beaucoup de positifs, donc je dirais que globalement c'est pas évident, mais c'est positif.
D'accord. Sur cette note positive, on va faire une petite pause musicale et on revient juste après. Nous allons écouter Just Imagine par Hungry Lucy. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1. Trouble time.
J'espère que vous avez apprécié cette magnifique chanson Just Imagine par Hungry Lucy, qui a en plus le bonheur d'être disponible sous licence libre CC BY SA, c'est-à-dire Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous parlons de la stratégie logicielle libre de la MAIF avec Chris Woodrow, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe MAIF, et Julien Negros, administrateur système à Enercop. Alors juste avant la pause musicale, on parlait du poste de travail et je voudrais là revenir sur un sujet qui est l'impact du choix du logiciel libre sur les équipes. Tout à l'heure, en introduction, Julien a expliqué qu'il a souhaité rejoindre Enercop parce qu'il savait qu'Enercop faisait du logiciel libre. Mais je voudrais poser la question à Chris Woodrow, MAIF. Comment a été vécu pour les équipes internes, donc les personnes du service notamment informatique, le fait tout d'un coup de se dire qu'on va, le code qu'on est en train d'écrire, on va le rendre public, on va le mettre en logiciel libre? Est-ce que ça a été bien perçu? Est-ce que c'est une source de motivation? Et seconde question qui est liée, est-ce que ça a un impact sur le recrutement, par exemple? Parce que je suppose que la MAIF a un recrutement au niveau service informatique. Voilà. Quel impact ça a sur les équipes internes? Chris Woodrow de la MAIF.
Bonne question, enfin une très bonne question, pardon. Effectivement, il y a un impact très vertueux quelque part parce que ma conviction en tant que développeur logiciel senior maintenant, ici à dire, mais c'est comme ça, c'est que les gens ne sont pas leur code et que il y a un certain détachement à avoir entre la personne et le travail et que plus on montre son code à un nombre important de personnes, plus, quelque part, on améliore ce code. À chaque fois qu'il y a un regard de plus qui se pose sur quelque chose qu'on construit, quelque part, on l'améliore. Ne serait-ce que en ayant des questions naïves, certaines fois, on avait avec une équipe avec laquelle je travaillais quelques années, on faisait du croisement, c'est-à-dire que les développeurs back-end, c'est-à-dire tout ce qui est côté serveur, allaient régulièrement poser des questions et auditer le travail des développeurs mobiles. Et pareil dans l'autre sens. Enfin bon, et tout ça pour apporter un œil neuf et un regard neuf. Et donc ça, c'est quelque chose de très vertueux. C'est-à-dire que à partir du moment où on a dit aux gens, maintenant vous allez tout ce que vous allez développer, on va le penser logiciel libre. Donc ça énormément motiver les gens, le souci de bien faire, l'envie de bien faire et puis être vraiment partie prenante d'une stratégie d'ouverture de la société. Et en termes de recrutement, effectivement, la marque employeur ça a un impact plutôt positif sur la marque employeur, savoir que les gens comprennent ce qu'on fait, voient dans quelles conditions on travaille, etc. Et l'opportunité pour un développeur de contribuer ou de libérer des logiciels, c'est quelque chose d'assez important. L'autre point vertueux qui est pas né de nôtre, c'est que à partir de maintenant, on a globalement une politique où on se dit que ça va arriver assez régulièrement et on construit pas forcément. À partir du moment où on ne construit pas des briques spécifiques à open source, mais qu'on se dit tiens, telle brique, ça a du sens de par un caractère universel de la libérer, ça permet aux gens aussi dès le départ, dès la conception, d'avoir une approche très édition logicielle et donc d'essayer d'adresser un problème assez global. Et donc, de fait, ce qui a un impact direct sur la qualité logicielle.
D'accord. Julien Negros, même question. Alors toi, tu as expliqué que tu es venu à Enercop parce que tu savais qu'il faisait du libre. Donc je suppose, après avoir vu l'interview de David Afagar en 2014, peut-être sur le Framablog, si je me souviens bien. En tout cas, je crois que c'est une première référence, première fois qu'Enercop prend des positions sur le sujet. Quel est l'impact donc en interne? Est-ce que les gens sont contents de faire ça? Ils ont l'impression d'avoir plus de sens parce qu'ils utilisent du libre et parce qu'ils peuvent contribuer à du libre? Ou finalement, ça serait un autre type d'informatique, peu importe?
Alors au niveau des utilisateurs tous, pas forcément ceux de notre pôle numérique.
Oui,
je pense que ça dépend des personnes, ça dépend des services. Il y en a qui sont beaucoup moins sensibles, voire presque hostiles. Non, j'exagère, mais qui sont...
On coupera ça au podcast.
Comment ?
On coupera ça, alors.
Non, ils sont... mais disons que, voilà, c'est clairement pas du tout leur envie, mais d'autres plus qui voient très bien l'intérêt et au niveau des valeurs, l'adéquation avec les valeurs de la coopérative, qui aiment bien l'idée d'avoir un petit peu justement une alternative à d'autres solutions et qui sont très réceptifs à ça. Et puis au niveau de moi je travaille avec trois autres personnes, nous c'est notre moteur. si on travaillait plus avec du logiciel libre, on serait très malheureux. Voilà.
D'accord. Et alors là, c'est équipe interne, et je vais poser la question concernant les équipes externes, entre guillemets, alors les prestataires, parce que tout à l'heure, toi, Julien, tu as parlé notamment d'Easter Eggs. Donc, c'est une volonté de faire appel à des prestataires externes spécialisés en logiciel libre.
Alors, pas partout, mais dans ce que nous, on choisit, oui, c'est au niveau de l'administration système, les services qui seront utilisés par nos utilisateurs et utilisatrices, on donne la priorité au logiciel libre. On est en train de choisir une nouvelle solution de visioconférence, on est en train d'essayer de mettre ça en place avec du logiciel libre. On travaille pour la suite collaborative avec Arabois et donc Easter Eggs et voilà, pour la messagerie, il y a Sogo. C'est la messagerie en général, donc un groupware. Je sais pas ce que c'est de traduction française. Les gestions d'agenda et de messagerie.
De contact, de messagerie, voilà. Etc. Ouais. Mm. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une demande au prestataire de reverser ce qu'il contribue. Si potentiellement, par exemple, il corrige un bug ou il rajoute une fonctionnalité, de le remonter dans la version originale du logiciel.
Ah bah dans ce cadre-là, oui. Alors, je sais que Easter Eggs, ils le font. Et notamment, on a eu des demandes précises. Parce qu'on utilise un gestionnaire d'annuaire qui est redistribué sous licence libre et qui est donc utilisable par n'importe qui, qui est développé par Easter Eggs, à qui on a demandé des développements spécifiques qui donc ont été qu'on profitait au logiciel et dont on a payé pour ça. Et puis pour Collabora aussi, je sais que Arabois contribue à Collabora et on les paye. Et puis Easter Eggs, ils fournissent énormément de services informatiques et eux, ils contribuent énormément au logiciel libre d'une manière générale.
D'accord. Côté Maïf, est-ce que vous faites tout en interne ou vous faites appel à des prestataires externes? Et donc, même question, en fait, quelle est la relation par rapport aux prestataires externes, si vous en avez, notamment l'aspect contribution?
D'une manière générale, je parle essentiellement du monde du développement. L'aspect contribution, quand on modifie un logiciel libre, et le reversement, c'est plus qu'une problématique morale. C'est même une problématique opérationnelle. Si vous faites, si vous récupérez un logiciel en version 1, que pour X raisons vous avez besoin de modifier ce logiciel et que vous apportez des améliorations. Si vous ne reversez pas vos contributions, le jour où la version 2 sort, vous êtes obligé de refaire ce que vous avez fait la fois d'avant. Alors que si vous avez fait un certain nombre de si vos modifications, vous les avez redistribuées au logiciel source, ça vous permet directement de bénéficier de vos modifications pour que dans les versions ultérieures du logiciel. Donc c'est vraiment un gain économique et opérationnel important. Donc nous, il n'y a pas vraiment de différence entre nos prestataires et nos développeurs internes, parce que on a aussi une politique d'embauche de développeurs en interne pour pouvoir maîtriser notre système d'information et diluer la maîtrise de notre système d'information. Et donc, d'une manière générale, est totalement encouragé. Dans les développeurs quand il y a matière à, sachant que nos outils de développement, c'est essentiellement des outils libres. On travaille notamment beaucoup sur Java, et Java, c'est un langage informatique open source.
D'accord. Tout à l'heure, Julien, dans son retour d'expérience, parlait du poste de travail. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question concernant la Maïf. Est-ce qu'il est prévu, à un moment ou un autre, d'étudier déjà la migration des postes de travail du personnel de la Maïf sur un environnement libre? Ou est-ce que ce n'est pas du tout prévu pour le moment?
Alors, c'est pas quelque chose qu'on se ferme. Néanmoins, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on a un historique qui est quand même pas neutre avec un certain nombre de logiciels qui sont basés plutôt sur un environnement Windows et donc de fait c'est plus compliqué et pour l'instant effectivement c'est pas quelque chose qu'on envisage à court terme en tous les cas. Par contre tous les gens qui sont directement impliqués dans la technique ont le choix d'avoir un poste Linux et d'utiliser les outils qu'ils veulent. Hein. Donc, et sachant que les suites logicielles, même propriétaires, pour la plupart maintenant sont compatibles avec Linux, ce qui permet d'avoir une adoption progressive et qui permet d'avoir un libre choix par rapport à un certain nombre de nos collaborateurs.
D'accord. Alors, le temps passe vite, on arrive bientôt à la fin de l'échange, mais j'ai une question que je ne voudrais pas oublier. On va commencer par Julien Négros d'Enercop. Quel conseil vous pourriez donner à des structures qui voudraient faire de même, c'est-à-dire qui se posent déjà des questions et qui se diraient, voilà, je veux aller vers le logiciel libre, est-ce qu'il y a des points de vigilance, est-ce qu'il y a des conseils, des incontournables que vous pourriez leur donner comme conseil? Julien Négros d'Enercop.
Alors, vaste sujet.
Je sais, oui.
Enfin, en plus, nous, dans notre expérience, du coup, c'est très, très lié aux utilisateurs et utilisatrices. Et dans ce cas-là, alors, il faut accompagner beaucoup. Il faut expliquer la démarche aussi, je pense, parce que sinon, enfin, là, je voudrais pas être dénigré, mais enfin, je trouve que mes collègues ont beaucoup de mérite parce qu'ils sont très réceptifs en majorité et qui sont tout à fait prêts à essayer de comprendre, à essayer d'évoluer, à essayer d'apprendre. Et ce qui est pas, c'est pas forcément évident. Donc, ça dépend peut-être aussi du public. Est-ce qu'il y a un terreau qui est plus favorable? Moi, je pense qu'effectivement, à Enercop, c'est le cas. Et je le constate. Je pense que c'est possible dans beaucoup de structures. À partir du moment où il y a une prise en compte des salariés, ça vaut pour le monde du travail en général, d'essayer d'être un peu attentif et voilà. Puis faire bien attention, ça c'est, on pourrait le faire plus, attention aux retours qu'on peut avoir.
C'est-à-dire tenir compte des retours des personnes utilisatrices.
Tout à fait, oui.
D'accord. Et de votre côté à la Maïf, Chris?
Je suis totalement en phase avec ce qui vient d'être dit. Je pense que c'est effectivement extrêmement important d'accompagner les utilisateurs et de vraiment prendre en compte l'UX du poste de travail et de l'informatique en général. Donc UX, expérience utilisateur.
Oui, merci.
Mais je ne connais pas l'équivalent francophone pour répondre. Après, sur l'utilisation de logiciels libres au sens serveur, je pense que c'est extrêmement important de démystifier un côté, une espèce de crainte de « on n'a pas de support, mais s'il y a des bugs, qu'est-ce qu'on va faire ?» la sécurité, etc., etc. Je pense que il y a vraiment un mythe autour de ça qui est souvent relativement faux, à savoir que la plupart des logiciels phares open source, les correctifs, ils arrivent très très vite et il y a une communauté qui est très active et donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc je pense que vraiment il faut se lancer et voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut se lancer directement sans plus que ça acquérir de l'expérience. Je pense qu'il faut internaliser les compétences sur les différents sujets et avoir des gens qui sont compétents sur ces points-là. Et sur l'édition de logiciels open source et la contribution, là aussi, je pense qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont en dire. Dans le pire des cas, le problème passera inaperçu. Et je pense que c'est important que toutes les entreprises, notamment les grosses entreprises qui utilisent du logiciel libre, soient contributeurs et soient acteurs forts du logiciel libre.
Bah écoutez, c'est super. Ma dernière question pour tous les deux, on va commencer par Chris. Est-ce que vous avez des annonces à faire, des événements à venir, Maïf?
Oui, Guillaume Rincé, le CTO de la Maïf, fera une keynote au Paris Open Source Summit le 11 décembre prochain. Donc si vous voulez assister à cette présentation, ça sera avec plaisir que on vous accueillera.
Bah, on y sera, donc le CTO, c'est donc le directeur technique. En gros, oui. Hein. Et côté Enercop, est-ce qu'il y a une annonce à faire? Julien Négros.
Alors, on a jeudi prochain notre prochain SA Deb Boîte, petit jeu de mots, un petit débat du coup sur good cop, bad cop, donc des réflexions sur, enfin un débat sur le statut de coopérative et ce que ça implique et est-ce que c'est toujours forcément positif d'être une coopérative.
Et donc c'est dans les locaux de NERCOP à Paris, c'est ça?
Alors,
ou
non.
C'est ailleurs?
C'est ailleurs, je vais juste regarder où c'est exactement.
Bon, sinon on mettra les références sur, oui. sur le site de l'émission, et donc c'est le jeudi 5 décembre 2019, c'est bien
c'est ça? C'est
ça,
c'est au Grand Voisin, à côté d'Enfer Rochefort.
Au Grand Voisin, d'accord. Bon, Chris, vous serez au Paris Open Source Summit, vous-même?
Non, malheureusement, moi je peux pas venir cette année, mais y aura un certain nombre de mes collègues, il y a aussi deux de mes collègues qui ont des slots... pendant le Paris Open Source Summit pour parler machine learning et stratégie open source. Donc malheureusement pas moi cette année, mais vous pouvez voir mes collègues. Et
puis, d'accord, ben, ce sera avec plaisir. Alors nous étions avec Julien Negros, donc administrateur d'Enercop, et Chris Woodrow, conseiller en technologie et responsable de la stratégie open source du groupe Maïf. Je souhaite de passer une agréable fin de journée.
Merci.
Merci beaucoup.
Et à bientôt.
Au revoir.
On va faire une pause musicale. On va écouter The Manx Lullaby par Slancha. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune 93.1.
Oh, hush thee, my dove. Oh, hush thee, my rowan. Hush thee, my lapwing, my little brown bird.
Oh, hush thee, my dove. Oh, hush thee, my rowan. Oh, hush thee, my lapwing, my little brown bird.
Oh, hush thee, my dove. Oh, hush thee, my
nous venons venons d'écouter The Manx Lullaby par Slensha, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Nous allons aborder notre sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique de Xavier Berne, journaliste, excusez-moi, à Next Impact. Dans sa chronique, Xavier Berne nous parle de l'actualité politique et juridique du numérique. Et le sujet du jour, ça va être la lutte contre l'obsolescence programmée dans le cadre du projet de loi pour l'économie circulaire. Alors Xavier, tu es avec nous au téléphone ?
Je suis bien là, bonjour.
Bonjour. Alors le projet de loi dit anti-gaspillage arrive cette semaine à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux nous dire ce que prévoit ce texte, notamment afin de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, je voudrais quand même préciser que ce texte a été en fait déjà examiné et même voté par le Sénat au mois de septembre. Sénat qui en a d'ailleurs profité pour introduire de nombreuses mesures en lien notamment justement avec l'obsolescence programmée. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler des mesures prévues par ce texte sur la consigne pour les bouteilles en plastique ou même sur l'interdiction de destruction des produits neufs mais invendus. Mais ce projet de loi dit anti-gaspillage, qui porte aussi sur l'économie circulaire, est en fait très vaste. Et sur le sujet de l'obsolescence programmée, ce texte qui est donc à la base porté par le gouvernement contient une mesure en fait phare, c'est l'introduction à partir de 2021 d'un indice dit de réparabilité des produits électroniques. Alors l'idée, c'est un petit peu comme la fameuse étiquette énergie, vous savez, quand vous achetez un frigo ou une machine à laver, on vous donne grosso modo une idée de la consommation d'électricité avec des lettres A, B, C, etc. Et bien là, l'idée, c'est de faire un petit peu pareil, mais pour donner une note, pour informer en fait le consommateur quant aux possibilités qu'il aura par la suite de réparer le produit qu'il s'apprête à acheter. Pour calculer cet indice, alors le gouvernement pense s'inspirer en fait de la durée des disponibilités des pièces détachées, savoir si la batterie pourra être achetée ensuite pendant 10 ans, etc. Mais aussi sur le prix des pièces détachées pour que justement, parce que parfois les pièces détachées coûtent très cher et que c'est un peu inutile, enfin compliqué pour le consommateur de se dire qu'il va falloir payer une pièce détachée quasiment aussi cher que le produit neuf. Voilà, ça c'est vraiment la mesure clé qui a été proposée par le gouvernement et qui espère ainsi que les consommateurs se tourneront vers des produits plus durables, quitte à devoir payer un peu plus à l'achat. Le hic qui a été soulevé notamment par les associations de consommateurs, c'est que c'est pas parce qu'un bien est réparable qu'il est forcément durable. Et les sénateurs ont d'ailleurs bien suivi ce raisonnement puisqu'ils ont voté un amendement qui prévoit qu'en plus de l'indice de réparabilité, il y ait un indice dit de durabilité. Alors j'ai relevé aussi d'autres amendements intéressants votés au Sénat. Il y en a un par exemple qui prévoit que les collégiens vont être initiés aux techniques de réparation de mécanique et d'entretien des produits. Autre mesure qui parlera probablement aux utilisateurs de produits Apple, pour ne pas faire de publicité, il y a un amendement qui oblige les fabricants de smartphones à proposer des mises à jour de leur système d'exploitation pendant 10 ans. Voilà, je pourrais en citer d'autres, mais ça permet déjà de donner une idée de ce qui se trame actuellement au Parlement.
D'accord. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de ce qui a été voté au Sénat, même sans doute on peut aller plus loin. Et est-ce que tout ça va être conservé par les députés ou est-ce que ça va être détricoté, comme on dit souvent ? Est-ce qu'on a des pistes ?
Désolé pour ceux qui n'aiment pas les spoilers, mais la réponse est clairement que ça risque d'être détricoté par les députés. Je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui vont passer à la trappe, tout simplement parce que le gouvernement a clairement dit au Sénat qu'il y était opposé. Par exemple, sur le fameux indice de durabilité, non plus de réparabilité, le gouvernement a expliqué qu'en fait, il était difficile d'établir des critères justement permettant d'établir est-ce qu'un produit est oui ou non durable. Est-ce qu'on parle du taux de retour auprès du service après-vente, des délais moyens entre deux pannes ? Ce sont des informations en fait qui ne sont pas toujours faciles à obtenir pour les pouvoirs publics et donc ensuite, il y aura un problème de mise en œuvre du fameux indice de durabilité, contrairement à celui de réparabilité qui, visiblement, serait plus abouti, sachant qu'il y a déjà eu des travaux menés ces derniers mois sur ce sujet-là. Après, ceci dit, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à l'Assemblée. Peut-être que les députés suivront les sénateurs. Et puis, il n'est pas rare que, en fait, quand il y a une mesure qui est votée au Sénat, ça permette à tout le moins d'arriver de déboucher sur un compromis, quitte à ce que la réforme prévue soit un petit peu allégée. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que les députés vont vouloir laisser leur marque sur ce texte clé. J'avoue, j'ai pas encore eu le temps de faire le tour des 1700 amendements qui ont été déposés rien que pour les débats de cette semaine à l'Assemblée en commission. mais il y a quand même des choses qui émergent. La députée Paula Forteza, par exemple, fait adopter hier un amendement pour que les informations sur la réparabilité des produits ou même sur leurs caractéristiques environnementales soient mises en ligne en open data, c'est-à-dire dans un format de publication ouvert, et ce qui permettrait par exemple en fait de les intégrer ensuite dans des applications de type Yuka, vous savez, cette application pour smartphone qui vous permet de scanner un code barre quand faites vos courses au supermarché et qui vous indique si le produit est bon ou au contraire peu recommandé pour votre santé. Voilà, il y a beaucoup d'amendements. Bon, certains n'ont clairement guère de chances d'aboutir. Je pense par exemple à cet amendement du groupe La France Insoumise qui demande carrément à ce que les publicités pour téléphones portables soient purement et simplement interdites. J'ai vu un amendement pour que, en fait, un certain pourcentage des dépenses en publicité viennent alimenter un fonds dédié à la promotion de la consommation durable. Peut-être plus intéressant, j'ai vu un amendement pour que, en fait, les batteries puissent obligatoirement être changés directement par l'utilisateur, notamment sur les téléphones portables ou sur les ordinateurs.
Ce qui aujourd'hui n'est quasiment plus possible. La dernière fois que j'ai essayé, en fait, j'ai niqué un téléphone. Je précise juste que quand tu parles de Yuka, j'encourage les personnes à utiliser évidemment Open Food Facts. On en a parlé dans l'émission Libre à vous il y a quelque temps. Comme on a un petit peu d'avance, si tu me le permets, Xavier, je vais donner la parole donc à mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, car il a lui aussi tenté d'étudier un certain nombre d'amendements et a publié une actu sur le site de l'AFRIB. Donc, il a peut-être envie de compléter sur les amendements intéressants donc à l'Assemblée nationale. Étienne, c'est à toi.
Oui, tout à fait. Donc nous, on a agi, on avait déjà fait une émission pour parler d'obsolescence logicielle, donc on a proposé plusieurs amendements pour lutter contre cette problématique. Xavier, tu citais, alors effectivement, parmi les ajouts, les apports des sénateurs et sénatrices à ce projet de loi, effectivement, cette idée qu'on peut presque qualifier, je trouve, de rétrocompatibilité, c'est-à-dire que les fabricants de terminaux mobiles, que ce soit les tablettes ou téléphones, doivent mettre à disposition et assurer la compatibilité des mises à jour pendant 10 ans sur toute leur gamme de produits. Alors nous, voilà, on avait trouvé de l'approche intéressante, mais on avait une crainte, voilà, pour certains projets comme le Fairphone, comme Librem, qui sont des projets, voilà, qui sont vertueux, on va dire, basés notamment sur du logiciel libre et du matériel libre. Donc nous, notre contribution, on avait proposé une contribution, on avait eu beaucoup d'autres à partir de cette disposition pour, voilà, garantir, normalement, considérer que s'il y avait, voilà, que les codes sources étaient accessibles, en gros, si c'était sur du logiciel libre, que le logiciel était librement modifiable et partageable, dans ce cas-là, finalement, l'objectif était intrinsèquement atteint puisque ça apportait, voilà, des garanties structurelles de durabilité, même si elles ne suffisent pas en elles-mêmes, elles apportent au moins cette brique fondamentale. Et donc c'était une manière d'apporter et d'enrichir le texte. Et ce qu'on a pu voir sur cette disposition, c'est qu'il y a eu donc de nombreux amendements. Ils ont tous été déclarés irrecevables, donc à la discrétion, on va dire, de la commission, au seul profit de l'amendement de la rapporteure pour les affaires économiques, en l'occurrence. Et une manière un petit peu, finalement, de taire et d'arrêter un débat en cours, d'arrêter un processus de construction. Et ça, on a pu le regretter. Mais ça, voilà, on en parle dans l'actu, mais on voit la difficulté d'un texte aussi ambitieux dans la lettre. Et malheureusement, dans les débats, on va voir où ça peut nous mener. Mais on attend, en tout cas, voilà, de voir.
Xavier, tu veux compléter ?
Oui. Non, ça me semble bien. Voilà, dans ce sujet-là, et puis je ne l'ai pas mentionné, mais vu qu'on a un petit peu de temps, il y a une mesure aussi sur qui vise en fait à instaurer une sorte de droit à la réparation. En fait, plus exactement, les sénateurs ont souhaité que soit interdite toute technique et éventuellement logicielle qui vise à rendre impossible justement la réparation d'un appareil en dehors des circuits agréés. Voilà, je pense ici aussi que les propriétaires de certains smartphones verront à quoi il est fait allusion au travers de cet amendement.
Tout à fait.
Oui, d'ailleurs, c'est un amendement que nous, on a proposé un amendement qui a été repris par le député Vincent Thiébaud, et qui en fait s'appuie sur cette avancée-là. On va essayer de nous proposer, alors c'est une vieille problématique, je pense que de nombreux libristes ont conscience, c'est l'existence de certaines, ce qu'on appelle nous, des restrictions d'installation logicielle, donc une manière générique de décrire, voilà, une pluralité peut-être de mesures techniques, mais là en particulier, nous on peut penser au phénomène Secure Boot, hein, donc cette couche logicielle dans les cartes mères des ordinateurs qui ne permet en réalité, d'installer uniquement le système d'exploitation de Microsoft, le système d'exploitation Windows, qui est une atteinte évidente aux libertés informatiques et un frein tout aussi évident au reconditionnement et à la réutilisation, à la durabilité des équipements. Et en fait, voilà, nous, on s'est appuyé là-dessus. Donc, c'est une des manières dont on peut essayer de faire, de contribuer au débat.
Et donc, je précise qu'il y a une actualité sur le site de l'April, donc april.org, avec les amendements, enfin, qui nous paraissent intéressants, donc, de ce point de vue-là. Bien sûr, je ne doute pas que Next Impact publiera une actu détaillant l'ensemble des amendements. Peut-être une question pour les personnes qui nous écoutent. Quand est-ce qu'a lieu l'examen du texte à l'Assemblée nationale, Étienne?
Alors, il a commencé en commission développement durable. Alors là, nous, la plupart des amendements qui nous intéressent sont après l'article 4. Il y a plusieurs articles 4 dans différentes versions, 4 bis, 4 ter, quader, CD. Enfin voilà, il y a toute une gamme de nouveaux amendements, dispositions notamment qui viennent du Sénat. Donc on peut imaginer que ce sera ces dispositions seront discutées mercredi ou jeudi. Donc là, normalement, il y a l'agenda qui est en ligne là, pour retrouver justement dans notre actualité. Et de mémoire, les discussions en séance publique, Xavier pourra peut-être confirmer ou infirmer, c'était entre le 9 et le 16 décembre, je crois que ça avait été discuté ce sens.
C'est ça. C'est ça.
D'accord, donc l'occasion de rappeler que les débats à l'Assemblée nationale, que ce soit en commission ou en séance publique, sont diffusés. Alors souvent, ça peut se terminer très tard le soir, voire très tôt dans la nuit, mais en tout cas, on vous encourage à les écouter parce que c'est souvent d'une grande qualité, parce que les personnes qui interviennent, il ne faut pas toujours être choqué du fait qu'il y ait peu de parlementaires qui sont en hémicycle ou en commission, hein, c'est le travail parlementaire qui est comme ça. Il faut plutôt se satisfaire et se féliciter de la qualité des échanges et que même si effectivement l'Assemblée nationale, il y a un groupe qui est ultra majoritaire, il n'est pas impossible que des parlementaires obtiennent soit de sauver des amendements Sénat, soit voter des amendements qui renforcent la lutte contre l'obsolescence logicielle notamment. Donc je vous encourage vraiment à suivre ces débats donc à l'Assemblée nationale. Et évidemment, on vous fera un compte-rendu la semaine prochaine ou lors d'une émission dédiée sur ces sujets-là. Xavier, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet?
Non, juste en termes de procédure, c'est la première lecture qui se joue en ce moment, c'est-à-dire que du coup, une fois que l'Assemblée aura voté le texte, devrait se réunir ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, en fait, ou une instance où siègent 7 députés et 7 sénateurs qui tentent de trouver un compromis sur le texte qui vient d'être voté. S'il y a un compromis, c'est entériné très rapidement par les deux chambres, mais sinon, on repart pour une navette parlementaire, mais en sachant que l'Assemblée nationale, là, aura le dernier mot.
Oui, tout à fait. Étienne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Peut-être, oui, préciser que mais en fait, maintenant, c'est devenu la procédure normale. Là, on a une procédure accélérée. Normalement, il est censé y avoir 2 lectures dans les chambres qui permettent d'avoir un débat plus... Enfin, voilà, un texte plus abouti, mieux construit. Mais voilà, on peut regretter que maintenant, la norme soit de cette lecture simple dans chaque chambre.
Pour les personnes que ça intéresse d'approfondir ce sujet, je vous invite à écouter le Libre à vous du 17 septembre 2019. Le sujet, c'était « Obsolescence programmée et projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire ». Donc avec Adèle Chasson de « Halte à l'obsolescence programmée », Frédéric Bordage de « GreenIT.fr » et mon collègue Étienne Gonu. Donc vous pouvez l'écouter, vous retrouverez le podcast sur le site april.org ou sur le site de la radio causecommune.fm. Bah écoute, Xavier, je te remercie pour cette chronique et puis on se retrouve alors pas le mois prochain, mais on se retrouve en 2020 pour la prochaine chronique Parole libre de Xavier Berne. Je te souhaite une belle journée.
Merci, par exemple.
À bientôt. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, nous allons donc terminer par quelques annonces. Je regarde un petit peu le programme. La semaine dernière, nous avions eu l'interview de Romain Pierronnet de la ville de Nancy qui nous parlait de l'événement Le Libre sur la Place. Toute une journée autour du logiciel libre et des collectivités qui se déroule en ce moment, donc mardi 26 novembre 2019. Donc, une fois que vous avez fini d'écouter l'émission, vous pouvez évidemment... Allez écouter les débats, donc les informations sur nancy.fr. Et sinon, vous pouvez aller à Nancy ce soir pour la soirée débat autour de la diffusion du documentaire LOL, une affaire sérieuse, de 18h à 20h30. Donc toutes les infos sont sur nancy.fr. C'est un documentaire vraiment d'une grande qualité qui explique le logiciel libre et qui tourne en ce moment. À Paris, jeudi 28 novembre, il y a une soirée sur les nouvelles formes d'engagement sur Internet organisée au CICP, donc 21 Terre rue Voltaire, de 19h à 22h. Et donc c'est le réseau Ritimo qu'organise avec Attac et Globenet une soirée de discussion autour des nouvelles formes d'engagement de la jeunesse sous l'angle des usages des outils numériques employés pour communiquer, s'organiser et mobiliser. Je suppose que c'est pour discuter GAFAM et comment sortir des outils GAFAM pour se mobiliser. L'occasion notamment sans doute de signaler Framasoft et son projet Mobilisons. À Lyon, vendredi 29 novembre, il y aura une soirée hommage à Jean-Yves Royer, qui était un libriste lyonnais qui est décédé il y a quelques jours. Donc ça se passe à la Maison pour tous, salle des Rancy, 249 rue Vendôme, Lyon. Rue Vendôme à Lyon, donc c'est le vendredi 29 novembre 2019 de 19h à 22h. Il faut s'inscrire pour participer, pour l'organisation. Il y a également un livre d'or, mais les informations sont évidemment sur le site de l'April, april.org, et aussi sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Le week-end dernier, il y avait l'Ubuntu Party à La Villette, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'y ai notamment donné une conférence intitulée « Raconter les libertés informatiques à la radio ». Et ben les personnes qui organisent Ubuntu Party sont d'une incroyable rapidité pour mettre en ligne les vidéos, car elles sont déjà disponibles. Donc vous pouvez voir la vidéo de ma présentation, mais vous pouvez voir évidemment la vidéo de l'ensemble des présentations. Donc c'est sur le site ubuntu-paris.org, et c'est le premier lien qui apparaît. Revoir les vidéos ou voir les vidéos. Donc n'hésitez pas surtout à aller les voir. Tous les autres événements, vous les trouverez sur le site évidemment de l'agenda du libre, agendadulibre.org. Et j'allais oublier tout à l'heure dans le sujet sur la stratégie logicielle libre d'Enercop et de la Maïf, j'allais oublier dans les annonces le pacte pour la transition, dont Enercop fait partie du collectif qui a lancé ce pacte. Donc c'est dans le cadre des municipales 2020, l'April fait aussi partie. Donc c'est 32 mesures que les candidats et candidates peuvent soutenir. Donc vous allez sur pacte-transition.org, vous pouvez vous emparer de ces mesures pour aller voir les personnes qui tractent. J'étais ce matin à l'école en déposant ma fille à l'école en maternelle, et ça commençait déjà les tracts juste devant l'entrée. Bon, je trouve pas ça super devant une école, mais enfin bon, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, si vous voyez ces gens qui candidatent, qui tractent, ou même évidemment les personnes candidates, n'hésitez pas à leur parler du pacte pour la transition, avec 32 mesures qui englobent toute la vie de la société, on va dire. Alors, notre émission se termine. Donc, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Noémie Berger, Julien Negros, Chris Woodrow, Xavier Bern, Emmanuel, Étienne Gonu à la manette de la régie et également en intervention. Un merci également à Sylvain Kutzmann, enseignant, compositeur et bénévole à l'April, qui s'occupe de la post-production du podcast. Merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui finalise le traitement et la préparation du podcast avant sa mise en ligne. Vous retrouverez donc sur le site de l'April, april.org, et sur le site de la radio causecommune.fm, une page avec toutes les références utiles concernant l'émission. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 3 décembre 2019 à 15h30. Notre invité principal sera Guillaume Poupard, le directeur de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 décembre 2019. Et d'ici là, portez-vous bien.